Bouillon de lecture. Bouillon de lecture, votre émission mensuelle destinée à vous faire découvrir un livre, à vous le faire aimer pour éventuellement vous donner envie de le lire à votre tour ou pourquoi pas découvrir d'autres écrits de l'auteur choisi. Et ce, tranquillement installé chez vous en écoutant la lecture d'extraits choisis par Magali ou Catherine. Et aujourd'hui, je parierais plutôt sur Catherine.
Oh, c'est un pari audacieux, moi, je trouve. Hein. Mais enfin, t'as gagné. Eh bien, j'ai choisi un roman, puisque c'est la rentrée littéraire et tout ça, du siècle dernier.
Oui, quelque chose de frais, donc.
Tout frais. Non, non, c'est vrai. Je l'ai lu il y a à peu près 25 ans, mais je l'ai relu très récemment avec plaisir. L'autrice de ce petit roman, parce qu'il n'est pas très très gros, a une actualité dans le cadre de la rentrée littéraire de septembre avec un nouveau roman, comme tous les ans, à cette période de l'année. Est-ce que tu as une idée ?
Une Française ?
Non, elle est belge.
Ah, alors j'ai une petite idée. Je parierais bien sur Amélie Nothomb.
T'as gagné encore. Disons, ça fait deux fois que tu gagnes.
Ouais, voilà.
Ça va nous coûter cher. Hein,
un petit mot.
Tout à fait.
Un petit mot sur la belle Amélie.
Alors, eh bien, avec plaisir. Ben, Amélie Nothomb est donc une autrice belge de langue française qui est née en 1966. Elle signe de son nom. Elle a juste changé son prénom. Au lieu d'être Fabienne Claire, elle est passée à Amélie.
Pourquoi pas, hein.
Et même si elle déclare écrire depuis ses 17 ans, c'est en 1992 qu'elle publie son premier roman, Hygiène de l'assassin. Et depuis cette date, elle accouche, je crois que c'est elle qui utilise le terme, chaque année d'un nouveau roman qui est édité par Albin Michel. Et elle partage son temps entre Paris et Bruxelles.
Elle emploie d'ailleurs une jolie métaphore en disant qu'elle est enceinte de ses romans à chaque fois qu'elle les écrit. Et elle parle d'elle comme d'un graphomane. Alors, elle doit être enceinte, mais de jumeaux, parce qu'elle en écrit en moyenne 4 par an.
C'est ça.
Ah oui.
Hein, quand même, donc elle est forte. Hein.
Plus de jumeaux.
C'est plus que des jumeaux. Bah, 2 x 2. Oh. Ah oui, non, ouais. Ça fait un peu court, oui.
C'est ça.
Elle est enceinte de ses romans. À chaque fois qu'elle écrit, elle parle d'elle-même comme une graphomane. Donc c'est vraiment une obsédée de l'écriture. Donc, elle nous dit qu'elle écrit 4 heures par jour. Alors que c'est à mi-temps.
Oui,
hein.
Oui. C'est à mi-temps.
Ce n'est qu'à mi-temps, hein. C'est pas exagéré. Oui. Ce qui fait que chaque année, elle peut accoucher donc, de plusieurs romans. Elle a été jusqu'à 4. Mais c'est une règle, elle n'en envoie qu'un seul à son éditeur.
Elle garde les autres pour la retraite,
et
peut-être.
Il y a un nouveau roman, ça doit être ça. Il y a un nouveau roman cette année, qui est sorti en septembre, qui s'appelle Tant mieux. Voilà, là on colle à l'actualité, tu vois.
Donc elle a publié, plus une vingtaine de romans autobiographiques. Et tu as choisi lequel ?
Alors j'ai choisi Stupeur et tremblement, publié en 1999, c'était son huitième roman.
Je me souviens de ce roman, je me souviens. Voilà, je l'ai lu d'ailleurs.
Est-ce que tu sais pourquoi il s'appelait Stupeur et tremblement ?
Oui, je sais.
Alors vas-y, dis-le nous.
Ah là là, attention.
C'est un rapport avec l'empereur.
Ouais.
Oui, elle l'avait présenté dans ses interviews.
Exactement.
En disant que le japonais devant son empereur se présentait avec stupeur, ou saluait,
c'est ça,
avec stupeur et tremblement.
Se devait de manifester avec stupeur et tremblement sa révérence.
Ouais.
Voilà. C'est un dieu vivant, faut dire l'empereur.
Absolument,
hein,
donc,
faire gaffe, quoi. Et ben voilà, ben écoute, t'as eu 3 bonus.
J'ai passé le test.
Je alors, ne dirais pas 3 bonus parce qu'elle va croire que je me mets en avant.
Tremblement. J'avais bien aimé Stupeur et tremblement. Par contre, Hygiène de l'assassin, je pense que je ne l'ai pas fini. Ça m'avait.
Alors il faut lire, faut relire la métaphysique des tubes aussi, qui est génial.
Ah oui.
Ouais.
Ah oui, on me l'avait conseillé, mais j'ai pas lu.
Ouais.
Mais ça donnait envie de. Moi, je l'avais lu aussi il y a longtemps et ça donne envie d'en relire quelques-uns.
De voilà. Se plonger un petit peu dans
exactement,
l'univers.
Exactement, surtout qu'ils ne sont pas très épais.
Oui,
donc,
oui, enfin, voilà. Ça dépend desquels. Mais oui. Mmh. Voilà.
Bien, un petit extrait.
Eh bien, on va être une originalité terrible puisque je vais commencer par le début. Tu ne m'as pas demandé le sujet, tu t'en fiches.
Alors, c'est pas, peut-être parce que je le connais un petit peu.
Ah bah voilà, mais pense au public.
Dis-nous quel est le sujet.
Je trouve qu'il y a une certaine décontraction.
Tout à fait.
C'est vrai.
Donc, Amélie Nothomb raconte son expérience professionnelle au sein d'une grande entreprise japonaise. Alors qu'elle termine tout juste ses études à l'université, Amélie rêve d'une grande carrière dans la finance au Japon. Il faut dire qu'elle parle japonais, hein, ça aide un petit peu. En réalité, le lecteur apprend dès le début du roman qu'Amélie a passé quelques années au pays du soleil levant. Elle a passé quelques années dans sa toute jeunesse, et puis après, de nouveau, entre les 20 et 23 ans, quelque chose comme ça, je ne suis pas à une année près, ce qui explique en partie son rêve. Et une opportunité se présente à elle au sein de l'entreprise d'import-export Yumimoto. Et Amélie San, elle se fait appeler comme ça, voilà, voit son rêve se réaliser lorsqu'elle est finalement engagée.
Bien, on a hâte d'avoir le début. Je t'écoute, on t'écoute.
Monsieur Haneda était le supérieur de Monsieur Omochi, qui était le supérieur de Monsieur Saito, qui était le supérieur de Mademoiselle Mori, qui était ma supérieure. Et moi, je n'étais la supérieure de personne. On pourrait dire les choses autrement. J'étais aux ordres de Mademoiselle Mori, qui était aux ordres de Monsieur Saito, et ainsi de suite. Avec cette précision que les ordres pouvaient, en aval, sauter les échelons hiérarchiques. Donc, dans la compagnie Yumimoto, j'étais aux ordres de tout le monde. Le 8 janvier 1990, l'ascenseur me cracha au dernier étage de l'immeuble Yumimoto. La fenêtre au bout du hall m'aspira comme l'eût fait le hublot brisé d'un avion. Loin, très loin, il y avait la ville. Si loin que je doutais d'y avoir jamais mis les pieds. Je ne songeais même pas qu'il eût fallu me présenter à la réception. En vérité, il n'y avait dans ma tête aucune pensée, rien que la fascination pour le vide, par la baie vitrée. Une voix rauque finit par prononcer mon nom derrière moi. Je me retournai. Un homme d'une cinquantaine d'années, petit, maigre et laid, me regardait avec mécontentement. « Pourquoi n'avez-vous pas averti la réceptionniste de votre arrivée ? » me demanda-t-il. Je ne trouvai rien à répondre et ne répondis rien. J'inclinai la tête et les épaules, constatant qu'en une dizaine de minutes, sans avoir prononcé un seul mot, j'avais déjà produit une mauvaise impression, le jour de mon entrée dans la compagnie Yumimoto. L'homme me dit qu'il s'appelait M. Saito. Il me conduisit à travers d'innombrables et immenses salles, dans lesquelles il me présenta à des hordes de gens dont j'oubliais les noms au fur et à mesure qu'il les énonçait. Il m'introduisit ensuite dans le bureau où siégeait son supérieur, M. Omochi, qui était énorme et effrayant, ce qui prouvait qu'il était le vice-président. Puis il me montra une porte et m'annonça d'un air solennel que derrière elle, il y avait M. Haneda, le président. Il allait de soi qu'il ne fallait pas songer à le rencontrer. Enfin, il me guida jusqu'à une salle gigantesque dans laquelle travaillaient une quarantaine de personnes. Il me désigna ma place qui était juste en face de celle de ma supérieure directe, Mademoiselle Mori. Cette dernière était en réunion et me rejoindrait en début d'après-midi. Monsieur Saito me présenta brièvement à l'assemblée, après quoi il me demanda si j'aimais les défis. Il était clair que je n'avais pas le droit de répondre par la négative. « Oui, dis-je. » Ce fut le premier mot que je prononçai dans la compagnie. Jusque-là, je m'étais contenté d'incliner la tête. Le défi que me proposa M. Saito consistait à accepter l'invitation d'un certain Adam Johnson à jouer au golf avec lui le dimanche suivant. Il fallait que j'écrive une lettre en anglais à ce monsieur pour le lui signifier. « Qui est Adam Johnson ? » eus-je la sottise de demander. Mon supérieur soupira avec exaspération et ne répondit pas. Était-il aberrant d'ignorer qui était M. Johnson ? Ou alors ma question était-elle indiscrète ? Je ne le sus jamais. Je ne sus jamais qui était Adam Johnson. L'exercice me parut facile. Je m'assis, écrivis une lettre cordiale. Monsieur Saito se réjouissait à l'idée de jouer au golf le dimanche suivant avec Monsieur Johnson et lui envoyait ses amitiés. Je la portai à mon supérieur. Monsieur Saito lut mon travail, poussa un petit cri méprisant et le déchira. Recommencez. Je pensais que j'avais été trop aimable ou familière avec Adam Johnson et je rédigeais un texte froid et distant. Monsieur Saito prenait acte de la décision de Monsieur Johnson et, conformément à ses volontés, jouerait au golf avec lui. Mon supérieur lut mon travail, poussa un petit cri méprisant et le déchira. Recommencez. J'eus envie de demander où était mon erreur, mais il était clair que mon chef ne tolérait pas les questions. Comme l'avait prouvé sa réaction à mon investigation au sujet du destinataire. Il fallait donc que je trouve par moi-même quel langage tenir au mystérieux Adam Johnson. Je passai les heures qui suivirent à rédiger des missives à ce joueur de golf. Monsieur Saito rythmait ma production en la déchirant, sans autre commentaire que ce cri qui devait être un refrain. Il me fallait à chaque fois inventer une formulation nouvelle. Il y avait à cet exercice un côté « Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour » qui ne manquait pas de sel. J'explorais des catégories grammaticales en mutation. Et si Adam Johnson devenait le verbe, dimanche prochain le sujet, jouer au golf le complément d'objet et Monsieur Saito l'adverbe, dimanche prochain accepte avec joie de venir Adam Johnsonner un jouet au golf, Monsieur Saito ment. Et pend dans l'œil d'Aristote. Je commençais à m'amuser quand mon supérieur m'interrompit. Il déchira la énième lettre sans même la lire et me dit que Mademoiselle Maury était arrivée. « Vous travaillerez avec elle cet après-midi. Entre-temps, allez me chercher un café. » Il était déjà 14 heures. Mes gammes épistolaires m'avaient tant absorbé que je n'avais pas songé à faire la moindre pause. Je posai la tasse sur le bureau de Monsieur Saito et me retournai. Une fille haute et longue comme un arc marcha vers moi. Toujours quand je repense à Fubuki, je revois l'arc nippon, plus grand qu'un homme. C'est pourquoi j'ai baptisé la compagnie Yumimoto, c'est-à-dire les choses de l'arc. Et quand je vois un arc, toujours, je repense à Fubuki, plus grande qu'un homme. Mademoiselle Maury, appelez-moi Fubuki. Je n'écoutais plus ce qu'elle me disait. Mademoiselle Maury mesurait au moins 1m80, taille que peu d'hommes japonais atteignent. Elle était svelte et gracieuse à ravir, malgré la raideur nippone à laquelle elle devait sacrifier. Mais ce qui me pétrifiait, c'était la splendeur de son visage. Elle me parlait et j'entendais le son de sa voix douce et pleine d'intelligence. Elle me montrait des dossiers, m'expliquait de quoi il s'agissait. Elle souriait. Je ne m'apercevais pas que je ne l'écoutais pas. Ensuite, elle m'invita à lire les documents qu'elle avait préparés sur mon bureau qui faisait face au sien. Elle s'assit et commença à travailler. Je feuilletais docilement les paperasses qu'elle m'avait données à méditer. Il s'agissait de règlements, d'énumérations. De mettre devant moi, le spectacle de son visage était captivant. Ses paupières baissées sur ses chiffres l'empêchaient de voir que je l'étudiais. Elle avait le plus beau nez du monde, le nez japonais, ce nez inimitable, aux narines délicates et reconnaissables entre mille. Tous les nippons n'ont pas ce nez, mais si quelqu'un a ce nez, il ne peut être que d'origine nippone. Si Cléopâtre avait eu ce nez, la géographie de la planète en eût pris un sacré coup. Le soir, il eût fallu être mesquine pour songer qu'aucune des compétences pour lesquelles on m'avait engagée ne m'avait servi. Après tout, ce que j'avais voulu, c'était travailler dans une entreprise japonaise. J'y étais. J'avais eu l'impression de passer une excellente journée. Les jours qui suivirent confirmèrent cette impression. Je ne comprenais toujours pas quel était mon rôle dans cette entreprise, mais cela m'indifférait. Monsieur Saito semblait me trouver consternante, cela m'indifférait plus encore. J'étais enchantée de ma collègue. Son amitié me paraissait une raison plus que suffisante pour passer 10 heures par jour au sein de la compagnie Yumimoto. Son teint à la fois blanc et mat était celui dont parle si bien Tanizaki. Fubuki incarnait à la perfection la beauté nippone, à la stupéfiante exception de sa taille. Yumimoto était l'une des plus grandes compagnies de l'univers. Monsieur Haneda en dirigeait la section import-export qui achetait et vendait tout ce qui existait à travers la planète entière. Le catalogue import-export de Yumimoto était la version titanesque de celui de Prévert, depuis l'emmental finlandais jusqu'à la soude singapourienne en passant par la fibre optique canadienne, le pneu français et le jute togolais. Rien n'y échappait. L'argent chez Yumimoto dépassait l'entendement humain. À partir d'une certaine accumulation de zéros, les montants quittaient le domaine des nombres pour entrer dans celui de l'art abstrait. Je me demandais s'il existait au sein de la compagnie un être capable de se réjouir d'avoir gagné 100 millions de yens ou de déplorer la perte d'une somme équivalente. Les employés de Yumimoto, comme les zéros, ne prenaient leur valeur que derrière les autres chiffres. Tous, sauf moi, qui n'atteignais même pas le pouvoir du zéro. Les jours s'écoulaient et je ne servais toujours à rien. Cela ne me dérangeait pas outre mesure, j'avais l'impression que l'on m'avait oublié, ce qui n'était pas désagréable. Assise à mon bureau, je lisais et relisais les documents que Fubuki m'avait mis à ma disposition. Ils étaient prodigieusement inintéressants, à l'exception de l'un d'entre eux qui répertoriait les membres de la compagnie Yumimoto. Y étaient inscrits leur nom, prénom, date et lieu de naissance, le nom du conjoint éventuel et des enfants avec, pour chacun, la date de naissance. En soi, ces renseignements n'avaient rien de fascinant, mais quand on a très faim, un croûton de pain devient alléchant. Dans l'état de désœuvrement et d'inanition où mon cerveau se trouvait, cette liste me parut croustillante comme un magazine à scandale. En vérité, c'était la seule paperasse que je comprenais. Pour avoir l'air de travailler, je décidai de la prendre par cœur. Il y avait une centaine de noms. La plupart étaient mariés, père ou mère de famille, ce qui rendait ma tâche plus difficile. Monsieur Saito ne me demandait plus d'écrire des lettres à Adam Johnson ni à personne d'autre. D'ailleurs, il ne me demandait rien, sauf de lui apporter des tasses de café. Rien n'était plus normal quand on débutait dans une compagnie nippone que de commencer par l'oshakumi, la fonction de l'honorable thé. Je pris ce rôle d'autant plus au sérieux que c'était le seul qui m'était dévolu. Très vite, je connus les habitudes de chacun. Pour Monsieur Saito, dès 8h30, un café noir. Pour Monsieur Unagi, un café au lait de sucre à 10h. Pour Monsieur Mizuno, un gobelet de coca par heure. Pour Monsieur Okaba, à 17h, un thé anglais avec un nuage de lait. Ah, pour Fubuki, un thé vert à 9h, un café noir à 12h et un thé vert à 15h et un dernier café noir à 19h. Elle me remerciait à chaque fois avec une politesse charmante. Cette humble tâche révéla le premier instrument de ma perte. Un matin, M. Saito me signala que le vice-président recevait dans son bureau une importante délégation d'une firme amie. Café pour 20 personnes. J'entrai chez M. Omochi avec mon grand plateau et je fus plus que parfaite. Je servis chaque tasse avec une humilité appuyée, psalmodiant les plus raffinées des formules d'usage, baissant les yeux et m'inclinant. S'il existait un ordre du mérite de l'oshakumi, il eût dû m'être décerné. Plusieurs heures après, la délégation s'en alla. La voix tonitruante de l'énorme M. Omochi cria « Saito-san !» Je vis M. Saito se lever d'un bond, devenir livide et courir dans l'antre du vice-président. Les hurlements de l'obèse résonnèrent derrière le mur. On ne comprenait pas ce qu'il disait, mais cela n'avait pas l'air gentil. M. Saito revint, le visage décomposé. Je ressentis pour lui une sotte bouffée de tendresse en pensant qu'il pesait le tiers de son agresseur. Ce fut alors qu'il m'appela sur un ton furieux. Je le suivis jusqu'à un bureau vide. Il me parla avec une colère qui le rendait bègue. « Vous avez profondément indisposé la délégation de la firme Ami. Vous avez servi le café avec des formules qui suggéraient que vous parliez le japonais à la perfection. »« Mais je ne le parle pas si mal, Saito-san. » Taisez-vous. De quel droit vous défendez-vous? Monsieur Omochi est très fâché contre vous. Vous avez créé une ambiance exécrable dans la réunion de ce matin. Comment nos partenaires auraient-ils pu se sentir en confiance avec une blanche qui comprenait leur langue? À partir de maintenant, vous ne parlez plus japonais. Je le regardais avec des yeux ronds. Pardon? Vous ne connaissez plus le japonais, c'est clair? Enfin, c'est pour ma connaissance de votre langue que Yumimoto m'a engagé. Cela m'est égal. Je vous donne l'ordre de ne plus comprendre le japonais. Mais c'est impossible. Personne ne peut obéir à un ordre pareil. Il y a toujours moyen d'obéir. C'est ce que les cerveaux occidentaux devraient comprendre. Nous y voici, pensais-je avant de reprendre. Le cerveau nippon est probablement capable de se forcer à oublier une langue. Le cerveau occidental n'en a pas les moyens. Cet argument extravagant parut recevable à M. Saito. Essayez quand même, au moins faites semblant. J'ai reçu des ordres à votre sujet, est-ce que c'est entendu? Le ton était cassant. Quand je rejoignis mon bureau, je devais tirer une drôle de tête car Fubuki eut pour moi un regard doux et inquiet. Je restai longtemps prostré à me demander quelle attitude adopter. Présenter ma démission eût été le plus logique. Pourtant, je ne pouvais me résoudre à cette idée. Aux yeux d'un occidental, ce n'eût rien eu d'infamant, mais aux yeux d'un japonais, c'eût été perdre la face. J'étais dans la compagnie depuis un mois à peine. Or, j'avais signé un contrat d'un an. Partir après si peu de temps m'eût couverte d'opprobre à leurs yeux comme aux miens. D'autant que je n'avais aucune envie de m'en aller. Je m'étais quand même donné du mal pour entrer dans cette compagnie. J'avais étudié la langue tokyoïte, des affaires, j'avais passé des tests. Certes, je n'avais jamais eu l'ambition de devenir un foudre de guerre du commerce international, mais j'avais toujours éprouvé le désir de vivre dans ce pays auquel je vouais un culte depuis les premiers souvenirs idylliques que j'avais gardés de ma petite enfance. Je resterai.
Regardez-la danser quand elle s'approche du ring. La boxeuse amoureuse, la boxeuse amoureuse. Sur ses gants dorés, des traces de sang, de larmes et de sueur. Et de sang, et de sang. Elle esquive les coups. La boxeuse amoureuse. Elle absorbe. La boxeuse amoureuse. Boum boum la supercute, un percute son visage. Mais jamais elle ne cesse de danser. Tomber ce n'est rien, puisqu'elle se relève, un sourire sur les lèvres, un sourire sur les lèvres.
Mais c'est absurde, quoi. Elle est embauchée parce qu'elle parle parfaitement japonais. Et là, elle est blâmée pour ça. Et on lui interdit de parler japonais.
Eh oui, en fait, rien ne se passe comme elle l'a imaginé. Dès son premier jour, la jeune femme est affublée de tâches toutes plus ridicules les unes que les autres. Elle sert le café. Elle est avanceuse tourneuse de calendrier. Ça,
c'est pas mal
quand même,
comme métier.
Ça, c'est pas mal.
J'aime
hein,
beaucoup.
Donc, comme quoi, ouais, mais elle s'ennuie vraiment.
Il faut penser qu'avanceuse tourneuse, ça a l'air simple. Mais imagine la fin du mois.
Ah oui.
T'as la page entière. Non, il y a des moments délicats.
C'est ça. Et elle passe son temps aussi à faire des photocopies du même document. Alors, un nombre incalculable de fois, tout simplement parce que les photocopies ne sont pas bien alignées.
Oui. Alors, ça peut faire sourire, mais c'est un petit côté effrayant, j'imagine. Et elle n'a aucun allié dans l'entreprise.
Alors, il lui semble tout de même que la fameuse Fubuki pourrait être une alliée. Hein. Elle admire déjà sa beauté, la parfaite beauté nippone. Et elle, après son échec cuisant, elle lui confie « Vous êtes mon seul recours, Fubuki. Je sais que vous ne pouvez pas grand-chose pour moi, mais je vous remercie. Votre simple humanité me fait tant de bien. » Et un peu plus tard, Amélie, elle va être secrètement aidée par M. Tenchi, le seul à peu près sympathique hein, dans cette histoire, qui lui confie un projet stimulant qui, cette fois, fait appel à ses compétences. Alors évidemment, ça lui apporte une bouffée d'air frais dans sa routine monotone. Mais même si M. Tenchi, en remettant son rapport, ne fait aucune allusion au travail fait par Amélie, il semble que leur supérieur hiérarchique ait été mis au courant. M. Tenchi et Amélie sont réprimandés violemment pour avoir pris des initiatives individuelles, marquant un tournant dans leur expérience de travail.
Et pendant la prochaine lecture, on va juste voir la fin de l'engueulade, disons. Quand je pénétrai dans l'antre du vice-président, je vis M. Tenchi assis sur une chaise. Il tourna vers moi son visage et me sourit. Ce fut le sourire le plus rempli d'humanité qui m'ait été donné de connaître. Il y était écrit « Nous allons vivre une épreuve abominable, mais nous allons la vivre ensemble ». Je croyais savoir ce qu'était une engueulade. Ce que je subis me révéla mon ignorance. M. Tenchi et moi reçûmes des hurlements insensés. Je me demande encore ce qui a été le pire, le fond ou la forme. Le fond était incroyablement insultant. Mon compagnon d'infortune et moi nous fîmes traiter de tous les noms. Nous étions des traîtres, des nullités, des serpents, des fourbes et, sommés de l'injure, des individualistes. La forme expliquait de nombreux aspects de l'histoire nippone. Pour que ces cris odieux s'arrêtent, j'aurais été capable du pire. D'envahir la Mandchourie, de persécuter des milliers de Chinois, de me suicider au nom de l'empereur, de jeter mon avion sur un cuirassé américain, peut-être même de travailler pour deux compagnies Yumimoto. Le plus insupportable, c'était de voir mon bienfaiteur humilié par ma faute. Monsieur Tenchi était un homme intelligent et consciencieux. Il avait pris un gros risque pour moi, en pleine connaissance de cause. Aucun intérêt personnel n'avait guidé sa démarche. Il avait agi par simple altruisme. En récompense de sa bonté, on le traînait dans la boue. J'essayais de prendre exemple sur lui. Il baissait la tête et courbait régulièrement les épaules. Son visage exprimait la soumission et la honte. Je l'imitais. Mais vint un moment où l'obèse lui dit « Vous n'avez jamais eu d'autre but que de saboter la compagnie ». Les choses se passèrent très vite dans ma tête. Il ne fallait pas que cet incident compromette l'avancement ultérieur de mon ange gardien. Je me jetai sous le flot grondant des cris du vice-président. « Monsieur Tenchi n'a pas voulu saboter la compagnie, c'est moi qui l'ai supplié de me confier un dossier. Je suis l'unique responsable. » J'eus juste le temps de voir le regard effaré de mon compagnon d'infortune se tourner vers moi. Dans ses yeux, je lus « Taisez-vous par pitié. » Hélas, trop tard. Monsieur Omochi resta un instant bouche bée avant de s'approcher de moi et de me hurler en pleine figure « Vous osez vous défendre ? » ?»« Oh non, au contraire, je m'accable, je prends tous les torts sur moi, c'est moi et moi seul qu'il faut châtier. »« Vous osez défendre ce serpent ? » ?»« Mais monsieur Tenchi n'a aucun besoin d'être défendu, vos accusations à son sujet sont fausses. » Je vis mon bienfaiteur, fermai les yeux et je compris que je venais de prononcer l'irréparable. Vous osez prétendre que mes paroles sont fausses? Vous êtes d'une grossièreté qui dépasse l'imagination. Je n'oserais jamais prétendre une chose pareille. Je pense seulement que M. Tenchi vous a dit des choses fausses dans le but de m'innocenter. » L'air de penser qu'au point où nous nous en étions, il ne fallait plus rien redouter, mon compagnon d'infortune prit la parole. Toute la mortification du monde résonnait dans sa voix. « Je vous en supplie, ne lui en veuillez pas, elle ne sait pas ce qu'elle dit. Elle est occidentale, elle est jeune, elle n'a aucune expérience. J'ai commis une faute indéfendable. Ma honte est immense. « En effet, vous n'avez aucune excuse !» hurla l'obèse. Si grand soit mes torts, je dois cependant souligner l'excellence du rapport d'Amélissane et la formidable rapidité avec laquelle elle l'a rédigé. Là n'est pas la question. C'était à M. Saitama d'accomplir ce travail. Oui, mais il était en voyage d'affaires. Eh bien, il fallait attendre son retour. Ce nouveau beurre allégé est sûrement convoité par bien d'autres que nous. Le temps que M. Saitama rentre de voyage et rédige ce rapport, nous aurions pu être devancés. « Est-ce que par hasard vous remettriez en cause la qualité du travail de M. Saitama ?»« Absolument pas, mais M. Saitama ne parle pas français et ne connaît pas la Belgique. Il aurait rencontré beaucoup d'obstacles, beaucoup plus d'obstacles qu'Amélissane. Taisez-vous, ce pragmatisme odieux est digne d'un occidental. » Je trouvais un peu fort que cela soit dit sans vergogne sous mon nez. « Pardonnez mon indignité occidentale, nous avons commis une faute, soit. » Il n'empêche qu'il y a un profit à tirer de notre méfait. Monsieur Omochi s'approcha de moi avec des yeux terrifiants qui interrompirent ma phrase. Vous, je vous préviens, c'était votre premier et votre dernier rapport. Vous vous êtes mise dans une très mauvaise situation. Sortez, je ne veux plus vous voir. Je ne me le fis pas crier deux fois. Dans le couloir, j'entendis encore des hurlements de la montagne de chair et le silence contrit de la victime. Puis la porte s'ouvrit et M. Tenchi me rejoignit. Nous allâmes ensemble à la cuisine, écrasés par les injures que nous avions dû essuyer. « Pardonnez-moi de vous avoir entraîné dans cette histoire », finit-il par me dire. « De grâce, M. Tenchi, ne vous excusez pas. Toute ma vie, je vous serai reconnaissante. Vous êtes le seul ici à m'avoir donné ma chance. C'était courageux et généreux de votre part. » Je le savais déjà au début, je le sais mieux depuis que j'ai vu ce qui vous est tombé dessus. Vous les aviez surestimés, vous n'auriez pas dû dire que le rapport était de moi. » Il me regarda avec cette stupéfaction. « Mais c'est pas moi qui l'ai dit. Rappelez-vous notre discussion, je comptais en parler en haut lieu à M. Haneda avec discrétion, c'était ma seule chance de parvenir à quelque chose. En le disant à M. Omochi, nous ne pouvions que courir à la catastrophe. » « Alors c'est M. Saito qui l'a dit au vice-président ? Mais quel salaud, quel imbécile ! Il aurait pu se débarrasser de moi en faisant mon bonheur, mais non, il a fallu qu'il... » « Ne dites pas trop de mal de M. Saito. Il est mieux que vous ne le pensez. Et ce n'est pas lui qui nous a dénoncés. J'ai vu le billet posé sur le bureau de M. Omochi. J'ai vu qu'il a écrit. »« M. Saitama ? Non. Faut-il vraiment que je vous le dise ? Il le faut. » Il soupira. Le billet porte la signature de Mademoiselle Mori. Je reçus un coup de massue sur la tête. Fubuki, mais c'est impossible! Mon compagnon d'infortune se tut. Je n'y crois pas, repris-je. C'est évidemment ce lâche de Saito qui lui a ordonné d'écrire ce billet. Il n'a même pas le courage de dénoncer lui-même. Il délègue ses délations. Vous vous trompez sur le compte de M. Saito. Il est coincé, complexé, un peu obtus, mais pas méchant. Il ne nous aurait jamais livré à la colère du vice-président. Mais Fubuki serait incapable d'une chose pareille. M. Tenchi se contenta de soupirer à nouveau. « Et pourquoi aurait-elle commis une chose pareille ? Continuai-je. Elle vous déteste ? Oh non, ce n'est pas contre moi qu'elle l'a fait. En définitive, cette histoire vous nuit plus qu'à moi. Moi, je n'y ai rien perdu. Vous, vous y perdez des chances d'avancement pour très très longtemps. » Enfin, je ne comprends pas, elle m'a toujours témoigné des marques d'amitié. Oui, aussi longtemps que vos tâches consistaient à avancer les calendriers et à photocopier le règlement du club de golf. Il était pourtant invraisemblable que je lui prenne sa place. En effet, elle ne l'a jamais redouté. Mais alors pourquoi m'a-t-elle dénoncé ? En quoi cela la dérangeait-il que j'aille travailler pour vous ? Mademoiselle Maury a souffert des années pour obtenir le poste qu'elle a aujourd'hui. Sans doute a-t-elle trouvé intolérable que vous ayez une telle promotion après 10 semaines dans la compagnie Yumimoto. Mais je ne peux pas le croire, ce serait tellement misérable de sa part. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle a vraiment beaucoup, beaucoup souffert pendant ses premières années ici. Et du coup, elle veut que je subisse le même sort? C'est trop lamentable, il faut que je lui parle. Le croyez-vous vraiment? Bien sûr, comment voulez-vous que les choses s'arrangent si on n'en parle pas? Mademoiselle Maury accueillit ma proposition avec un air de courtoisie étonnée. Elle me suivit, la salle de réunion était vide, nous nous y installâmes. Je commençais d'une voix douce et posée. Je pensais que nous étions amis, je ne comprends pas. Que ne comprenez-vous pas? Allez-vous nier que vous m'avez dénoncé? Je n'ai rien à nier, j'ai appliqué le règlement. Le règlement est-il plus important que pour vous que l'amitié? Amitié est un bien grand mot. Je dirais plutôt bonne relation entre collègues. Elle proférait ces phrases horribles avec un calme ingénu et affable. Je vois. Pensez-vous que nos relations vont continuer à être bonnes suite à votre attitude? Si vous vous excusez, je n'aurai pas de rancune. Vous ne manquez pas d'humour, Fubuki. Mais c'est extraordinaire. Vous vous conduisez comme si vous étiez l'offensé alors que vous avez commis une faute grave. J'eus le tort de sortir une réplique efficace. C'est curieux, je croyais que les Japonais étaient différents des Chinois. Elle me regarda sans comprendre. Je repris. Oui, la délation n'a pas attendu le communisme pour être une valeur chinoise. Et encore aujourd'hui, les Chinois de Singapour, par exemple, encouragent leurs enfants à dénoncer leurs petits camarades. Je pensais que les Japonais, eux, avaient le sens de l'honneur. Je l'avais certainement vexée, ce qui constituait une erreur de stratégie. Elle sourit. Croyez-vous que vous soyez en position de me donner des leçons de morale? Mais à votre avis, Fubuki, pourquoi ai-je demandé à vous parler? Par inconscience. Ne pouvez-vous imaginer que ce soit par désir de réconciliation? Soit, excusez-vous et nous serons réconciliés. Je soupirai. Vous êtes intelligente et fine, pourquoi faites-vous semblant de ne pas comprendre? Ne soyez pas prétentieuse, vous êtes très facile à cerner. Tant mieux! En ce cas, vous comprenez mon indignation. Je la comprends et je la désapprouve. C'est moi qui avais des raisons d'être indignée par votre attitude. Vous avez brigué une promotion à laquelle vous n'aviez aucun droit. Admettons, je n'y avais pas droit. Concrètement, qu'est-ce que cela pouvait vous faire? Ma chance ne vous lésait en rien. J'ai 29 ans, vous en avez 22. J'occupe mon poste depuis l'an passé. Je me suis battue pendant des années pour l'avoir. Et vous, vous imaginiez que vous alliez obtenir un grade équivalent en quelques semaines? C'est donc ça? Vous avez besoin que je souffre? Vous ne supportez pas la chance des autres? Mais c'est puéril! Elle eut un petit rire méprisant. Et aggravez votre cas comme vous le faites. Vous trouvez que c'est une preuve de maturité? Je suis votre supérieure. Croyez-vous avoir le droit de me parler avec cette grossièreté? Vous êtes ma supérieure, oui, mais je n'ai aucun droit, je le sais, mais je voulais que vous sachiez combien je suis déçue. Je vous tenais en si haute estime. Elle eut un rire élégant. « Moi, je ne suis pas déçue. Je n'avais pas d'estime pour vous. »
Donc Amélie Nothomb analyse les relations dans l'entreprise. La satire est violente, hein, même si elle est teintée d'humour. On sent le vécu et une sorte de fascination pour la hiérarchie d'entreprise japonaise, précise et méthodique.
Oui, alors longtemps, la légende a voulu qu'elle soit née au Japon. Et dans Métaphysique des tubes, sortie en 2000, toujours chez Albin Michel, qui est une autobiographie romancée portant sur les trois premières années de son existence, Amélie Nothomb décrit ce passage de l'état de néant précédant sa naissance à celui de la conscience du moi, d'un moi qu'elle pense japonais.
Oui, en fait, elle est née en Belgique. C'est peut-être moins...
Rock'n'roll ?
Peut-être.
Moins rock'n'roll.
Et l'écrivaine s'est donc longtemps rêvée nippone, marquée par un pays où son père... Donc son père était diplomate, c'est le diplomate belge Patrick Nothomb, et il est nommé consul général à Osaka, puis ambassadeur de Belgique à Tokyo. Tokyo, elle effectue, en plus, après ces quelques années de très très jeune enfance, un stage en interprétariat dans une entreprise. Donc on voit que ça colle à son roman. Et elle se fiance d'ailleurs à un Japonais. Et deux expériences qui seront deux échecs. Et ces deux expériences sont à l'origine de stupeur et tremblement. Alors effectivement, la jeune fille, Amélie. Voilà, est fiancée au fils du plus grand joaillier de Tokyo. Elle l'est fiancée pendant 2 ans. Et voilà, c'est Amélie. Elle rompt ses fiançailles 8 jours avant le mariage.
Alors, je ne connais pas beaucoup Amélie Nothomb, mais on a l'impression que ça colle un peu au personnage.
Voilà, voilà.
Et voici surprise.
D'ailleurs, quand elle raconte cette anecdote, elle dit, bah, oui, c'était le plus grand joaillier, enfin le fils, etc. Et elle dit... D'ailleurs, il me couvrait, j'avais l'air d'un sapin de Noël tellement j'avais de bijoux. Puis je suis une idiote, quand on a rompu, j'ai tout rendu.
Effectivement. Si on revient au roman, en fait, la jeune fille va rapidement déchanter à la découverte de cette culture qu'elle ne connaît finalement absolument pas. Ses fréquentes initiatives sont régulièrement sujettes aux réprobations de ses supérieurs. Les humiliations et les vexations se succèdent et la soumission s'installe. Donc face à cet acharnement, la jeune fille se plie aux exigences. Elle échoue de nouveau dans ses nouvelles fonctions de comptable. Sa hiérarchie l'humilie publiquement pour ses erreurs.
Alors, beaucoup plus tard, Amélie assiste impuissante à l'humiliation publique de Fubuki, parce qu'elle aussi, elle y passe, par l'obèse monsieur Omochi. Une engueulade d'une violence rare devant tous ses collègues. Et d'ailleurs, elle fait un rapprochement dans cette scène qui est très drôle sur la violence d'Omochi. Elle rapproche ça d'une sorte de viol. Donc, c'est une sorte de jouissance pour Omochi d'écraser cette jeune femme frêle. C'est assez horrible d'ailleurs,
oui,
mais c'est
fait.
Tellement fait avec humour qu'on sourit quand même.
Il peut y avoir un peu de ça, effectivement.
Et oui, il peut y avoir un peu de ça, voilà. Alors, la grosse erreur d'Amélie, c'est que sa collègue donc, a réussi à serrer les dents et tout pour ne pas pleurer devant ses collègues. Et elle s'enfuit aux toilettes pour pouvoir pleurer. Et Amélie, bêtise même, a la bêtise de vouloir la consoler et la rejoint aux toilettes. Et c'est la pire des humiliations pour Fubuki que d'avoir un témoin alors qu'elle a fait tout pour que personne ne la voie pleurer. Et Amélie va payer vraiment très cher pour cette erreur. Le lendemain, Fubuki m'accueillit avec cette fois un visage d'une sérénité olympienne. Elle s'est remise, elle va mieux, pensais-je. Elle m'annonça d'une voix posée « J'ai une nouvelle affectation pour vous. Suivez-moi. » Je la suivis hors de la salle. Déjà, je n'étais pas rassurée. Ma nouvelle affectation ne se passait donc pas au sein de la section comptabilité. Qu'est-ce que cela pouvait être et où me conduisait-elle? Mon appréhension se précisa quand je constatai que nous prenions la direction des toilettes. Mais non, pensais-je, nous allions certainement tourner à droite ou à gauche à la dernière seconde pour nous rendre dans un autre bureau. Nous ne virâmes ni à bâbord ni à tribord, elle m'entraîna bel et bien aux toilettes. Sans doute m'a-t-elle emmenée en ce lieu isolé pour que nous nous expliquions au sujet d'hier, me dis-je. Non pas. Elle déclara impassible « Voici votre nouveau poste ». Le visage assuré, elle me montra très professionnelle, les gestes qui seraient désormais les miens. Il s'agissait de remplacer le rouleau de tissu sec et propre quand celui-ci aurait entièrement servi à essuyer des mains. Il s'agissait aussi de renouveler les fournitures de papier toilette au sein des cabinets. À cet effet, elle me confia les précieuses clés d'un débarras où ces merveilles étaient entreposées à l'abri des convoitises dont, sans nul doute, elles eussent été l'objet de la part des cadres de la compagnie Yumimoto. Le clou fut atteint quand la belle créature empoigna délicatement la brosse à chiottes pour m'expliquer avec beaucoup de sérieux quel en était le mode d'emploi. Supposait-elle que je l'ignorais ? Déjà, je n'aurais jamais pu imaginer qu'il me serait donné de voir cette déesse tenir un tel instrument, à plus forte raison pour le désigner comme mon nouveau sceptre. Au dernier degré de l'ahurissement, je posai une question, mais à qui est-ce que je succède ? À personne. Les femmes d'ouvrage effectuent ces tâches le soir. Et elles ont démissionné ? Non. Seulement, vous avez dû vous apercevoir que leur service nocturne ne suffit pas. Il n'est pas rare qu'en cours de journée, nous n'ayons plus de tissu sec à dérouler ou que nous trouvions un cabinet sans papier toilette. Ou encore, qu'une cuvette reste souillée jusqu'au soir. C'est gênant, surtout quand nous recevons des cadres extérieurs à Yumimoto. L'espace d'un instant, je me demandais en quoi il était plus gênant pour un cadre de voir une cuvette souillée par un membre extérieur à sa compagnie que par un collègue. Je n'eus pas le temps de trouver la réponse à cette question d'étiquette, car Fubuki conclut avec un doux sourire « Désormais, grâce à vous, nous ne souffrirons plus de ces inconvénients. » Et elle partit. Je me retrouvai seule dans le lieu de ma promotion. Éberluée, je restais immobile, les bras ballants. Ce fut alors que la porte se rouvrit sur Fubuki. Comme au théâtre, elle était revenue pour me dire le plus beau. J'oubliais. Il va de soi que votre service s'étend aussi aux toilettes des messieurs. Récapitulons. Petite, je voulais devenir Dieu. Très vite, je compris que c'était trop demandé et je mis un peu d'eau bénite dans mon vin de messe. Je serai Jésus. J'eus rapidement conscience de mon excès d'ambition et j'acceptai de faire martyr quand je serai grande. Adulte, je me résolus à être moins mégalomane et à travailler comme interprète dans une société japonaise. Hélas, c'était trop bien pour moi et je dus descendre un échelon pour devenir comptable. Il n'y avait pas de frein à ma foudroyante chute sociale. Je fus donc mutée au poste de rien du tout. Malheureusement, j'aurais dû m'en douter, rien du tout, c'était encore trop bien pour moi. Et ce fut alors que je reçus mon affectation ultime, nettoyeuse de chiottes. Il est permis de s'extasier sur ce parcours inexorable de la divinité jusqu'au cabinet. On dit d'une cantatrice qui peut passer du soprano au contralto qu'elle possède une vaste tessiture. Je me permets de souligner l'extraordinaire tessiture de mes talents, capables de chanter sur tous les registres, tant celui de Dieu que de Madame Pipi. La stupéfaction passée, la première chose que je ressentis fut un soulagement étrange. L'avantage, quand on récure des cuvettes souillées, c'est que l'on ne doit plus craindre de tomber plus bas. J'imagine que n'importe qui à ma place eût démissionné. N'importe qui, sauf un nippon. Me donner ce poste de la part de ma supérieure était une façon de me forcer à rendre mon tablier. Or, démissionner, c'était perdre la face. Nettoyer des chiottes aux yeux d'un japonais, ce n'était pas honorable, mais ce n'était pas perdre la face. De deux mots, il faut choisir le moindre. J'avais signé un contrat d'un an, il expirerait le 7 janvier 91, nous étions en juin, je tiendrai le coup, je me conduirai comme une nippone luffée. En cela, je n'échappais pas à la règle. Tout étranger désirant s'intégrer au Japon met son point d'honneur à respecter les usages de l'Empire. Il est remarquable que l'inverse soit absolument faux. Les Nippons qui s'offusquent des manquements d'autrui à leur code ne se scandalisent jamais de leur propre dérogation aux convenances autres. J'étais consciente de cette injustice et pourtant je m'y soumettais à fond. Les attitudes les plus incompréhensibles d'une vie sont souvent dues à la persistance d'un éblouissement de jeunesse. Enfant, la beauté de mon univers japonais m'avait tant frappée que je fonctionnais encore sur ce réservoir affectif. J'avais à présent sous les yeux l'horreur méprisante d'un système qui niait ce que j'avais aimé, et cependant, je restais fidèle à ces valeurs auxquelles je ne croyais plus. Je ne perdis pas la face. Pendant 7 mois, je fus postée aux toilettes de la compagnie Yumimoto.
Mais c'est encore vous, mon cher. Oh, mais c'est encore vous, mon cher. Me dit-elle tout à coup. Me dit-elle tout à coup. Oh, je me sens de vous prisonnière. Oh, je me sens de vous prisonnière. Faites de moi ce que vous. Faites de moi ce que vous. Donnons-nous rendez-vous à la rivière. Donnons-nous rendez-vous à la rivière. Lavons-nous de la boue. Lavons-nous de la boue. Prenez-moi dans vos bras, mon cher. Prenez-moi dans vos bras, mon cher. Et oublions tout. Et oublions tout. Tenons-nous debout dans la lumière. Et tenons-nous debout dans la lumière. Soyons prêts à tout. Soyons prêts à tout. Il en va de la vie de nos mères. Il en va de la vie de nos pères. Il en va de nous. Il en va de nous. Je me sens de vous prisonnière. Oh, je me sens de vous prisonnière. Faites de moi ce que vous. Faites de moi ce que vous.
Quel humour et quelle autodérision. Mais alors j'imagine que c'est une caricature. J'imagine que ça doit être loin de ce qu'elle a vécu quand même.
Mais l'autrice se penche sur la profonde différence de mentalité entre occidentaux et japonais. Beaucoup ont reproché à l'autrice d'avoir dressé un tableau sans complaisance du Japon et des Japonais, oubliant au passage que ce qui est dépeint dans cet ouvrage n'est qu'un cas particulier, et c'est un roman. On peut dire ça.
Oui.
Mais quand on écoute ses interviews, elle précise qu'elle n'a strictement rien inventé des brimades et de la maltraitance qu'elle a subie. Qui livrait.
C'est vrai, je me souviens qu'à l'époque, ouais, effectivement, elle avait dit ça. Ouais.
Alors, je vais vous citer une de ses phrases dans ses interviews. C'est une histoire que j'ai totalement vécue et que je n'ai nullement exagérée. Je sais que personne ne me croit sur ce coup-là. Je vous assure que c'est arrivé totalement comme ça.
C'est clair. Donc le roman, il décrit l'atmosphère et la stricte hiérarchie qui régit le monde du travail au Japon. Et l'autrice nous conte une lente descente professionnelle et l'humiliation de passer finalement de la fonction d'interprète à celle de dame pipi.
Dame pipi, oui.
Eh oui. Donc c'est vraiment l'histoire d'une déchéance cruelle, très injuste. Mais comme on l'a lu, comme Catherine l'a lu, elle refuse néanmoins de démissionner pour garder son honneur.
Voilà. Donc ce roman, il expose... En fin de compte, le sujet n'est pas gai du tout.
Du tout.
La situation n'est pas gaie. Hein. Ça expose le système japonais du monde du travail, tout au moins tel qu'il était dans les années 90. Hein. Mm-hmm. Je ne sais pas si ça a évolué.
Je ne suis pas sûr que ça ait beaucoup
voilà.
bougé.
Qui consiste à réclamer la perfection des employés, mais également à mettre à l'écart et frapper d'ostracisme, sans toutefois les licencier, les éléments déviants. Un exemple, sans la maltraitance subie par Amélie, est le Madogiwa. Ça veut dire coin de fenêtre. C'est employé pour un salarié jugé inutile qu'on affecte à un bureau isolé, idéalement près d'une fenêtre, et à qui on ne confie plus aucune tâche jusqu'à ce qu'il démissionne ou prenne sa retraite. Alors, C'est une petite réflexion personnelle, mais malheureusement, moi j'avoue que j'ai pu le constater, cette technique a été copiée dans certaines entreprises françaises et pas que des entreprises.
Tout à fait, oui.
Pas que des entreprises. Donc on a bien copié les Japonais, pas pour ce qu'ils font de mieux.
Voilà.
Et puis alors aussi, mais ça on le sent dans tous les extraits que j'ai lus, en fin de compte, c'est un roman sur le racisme. Alors, ce n'est pas du tout le racisme tel que nous, on peut le vivre en traitant de sale machin ou de sale truc. C'est tout en délicatesse. Mais à chaque fois qu'ils peuvent humilier cet occidental, ils ne se gênent pas. On fait comprendre, avec tous les sous-entendus possibles, que vous appartenez à une race inférieure et que vous n'appartenez pas au peuple élu. Et là, le peuple élu, vous
c'est
doutez
que
c'est le peuple
bien
japonais.
Sûr.
Voilà.
Bien sûr.
Il y a aussi des attitudes de sexisme, hein, donc ça fait partie aussi, bien sûr, du lot, on va dire.
Ah oui, oui,
hein,
la totale.
Voilà. Le roman a rencontré un très grand succès et lui a valu finalement le grand prix du roman de l'Académie française l'année de sa publication, donc en 1999. Et cette récompense sûrement a balayé en tout cas les hésitations de son éditeur japonais, parce que finalement le livre a été traduit et il est sorti au Japon.
C'est quand même étonnant.
Curieux de savoir quel accueil il a eu là-bas.
Alors, elle raconte aussi, parce que je me suis régalée d'écouter plein d'interviews de cette époque, qu'elle a quand même reçu, après coup, une visite, elle l'a appelé un KGB japonais, un peu, des gens qui lui ont fait comprendre que maintenant, il faut qu'elle écrive un roman où on montre que les Japonais sont des gens supérieurs et extraordinaires et que c'est pas possible ce qu'elle a fait.
Et dépression.
Eh bien, c'est vrai que je vends un peu la mèche, mais je peux vous lire la dernière phrase du roman. C'est un peu osé. Donc, elle raconte la suite, elle finit par s'en aller. Alors, il y a toutes les scènes de sa démission à tous les niveaux de la hiérarchie. C'est aussi un beau régal. Le temps, conformément à sa vieille habitude, passa. En 1992, mon premier roman fut publié. En 1993, je reçus une lettre de Tokyo. Le texte en était ainsi libellé. Amélie-san, félicitations. Signé Mori Fubuki.
Invraisemblable. Extraordinaire.
Et c'était peut-être sincère, après, qui sait. Eh bien, merci pour cette découverte ou cette redécouverte. Alors, tu nous rappelles les références du livre ?
Oui, donc c'est Stupeur au singulier et Tremblement au pluriel. Donc d'Amélie Nothomb, qui a été publiée donc par Albin Michel en 1999. Il existe évidemment une édition poche que vous pouvez retrouver dans toutes les bonnes librairies et les bibliothèques de l'agglomération de Blois.
Bien sûr.
Comme par exemple Blois ou Saint-Gervais,
au hasard. Oui, au hasard. Complètement au hasard.
Peut-être Vineuil aussi. Mais
certainement.
Oui,
certainement,
voilà.
Certainement. Donc, ce roman, il a eu également une adaptation cinématographique en 2003. Le film a été réalisé par un réalisateur français, Alain Corneau. Et c'est l'actrice Sylvie Testu qui tenait le rôle d'Amélie, enfin qui tient le rôle d'Amélie.
D'ailleurs, ils ont changé la fin dans le film.
Complètement.
J'ai pas vu le film.
Voilà. C'est différent.
Alors, un petit scoop, parce que t'aimes bien les scoops et que t'aimes bien qu'on colle à l'actualité. Amélie Nothomb sera présente à Blois le 15 octobre.
Dans quel cadre, du coup ?
Eh bien, dans le cadre des rencontres qu'organise Annie Huette, qui reçoit des auteurs de la rentrée littéraire. Et elle viendra parler de son nouveau roman, tant mieux. Alors, c'est à l'Hôtel de Ville de Blois, c'est souvent mais c'est déjà complet. Alors, il y a une liste d'attente, mais voilà. Donc, je pense que l'échange sera court, mais il y aura beaucoup d'heures de dédicaces. Voilà.
C'est possible. Eh bien, merci. Merci également pour l'annonce. Bouillon de lecture, comme ça, colle un peu à l'actualité littéraire de la rentrée blésoise. Voilà.
Enfin, la rentrée nationale.
N'ayons pas peur de
Belle ouverture sur le réel. Voilà, eh bien, il me reste à remercier tout le monde. Merci Catherine pour ce choix. Merci Magali. Et puis, on va dire à nos auditeurs au mois prochain pour une nouvelle découverte.
Exactement.
À bientôt.
À bientôt. Au revoir.